l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Les auditeurs de Radio Mandeléo, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. L'Office de l'information, trois titres, le preuve préliminaire de l'examen d'État édition 2025 pour les autodidactes est prévu ce mardi 25 mars dans la ville de Bukavu. Toutes les mailles des questionnaires sont déjà dans la ville. Le go de ces examens sera donné par l'autorité provinciale au lycée Thérèse. Sixième journée des éliminatoires du Mondial 2026, la RDC croise la Mauritanie ce mardi 25 mars 2025 à Northampton. Suite au Ramadan, ce match jouera tardivement. Son coup d'envoi est prévu à 23h heure de Bukavu. Et suite à l'inactivité de la société Bralima, le trésor public provincial connaîtra un manque à gagner de plus de $300,000 le mois. Des solutions alternatives sont néanmoins envisageables si l'administration publique est opérationnelle, fait savoir Idé Bakoulou, qui est expert en finances publiques. Il est notre invité ce jour. Voilà tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Un bouclage sera organisé à Bukavu afin de récupérer toutes les armes cachées dans des maisons et dénicher les personnes qui insécurisent la ville. À cet effet, toute personne qui garderait une arme est appelée à la remettre auprès des autorités en place. Ces mots sont du maire de Bukavu, Ladis Muganza-Kandoa, dans une interview accordée à Radio Mandeléo ce lundi 24 mars 2025 suite à l'insécurité grandissante dans la ville de Bukavu. Détail, Hélène Aboutiriri.
Il précise que les personnes qui seront retrouvées en possession d'armes ou les gardant dans leur maison subiront la rigueur de la loi car ayant été sensibilisées pendant un long moment. Pour Ladis Muganza, c'est inadmissible qu'une catégorie des personnes se décide d'insécuriser toute la ville à chaque tombée de la nuit et empêcher les autres de dormir paisiblement.
Depuis un certain temps, lorsqu'il fait 19h30, il y a des jeunes gens qui se livrent au banditisme dans les quartiers avec des armes. Ils pillent, ils volent, ils blessent et ils sèment la terreur. Bref, ils démoralisent la population. Cette façon d'agir ne plaît pas à nous qui exerçons l'impérium. Il va falloir que ces jeunes arrêtent. Venons avertir la jeunesse que dorénavant, quiconque se fera attraper dans ce genre de banditisme, il les payera cher. Nous ne tolérerons plus que la population passe la nuit à la belle étoile parce qu'il y a des gens qui financent. Nous allons bientôt organiser le bouclage. Mais nous avons pensé qu'avant de faire le bouclage, autant prévenir la jeunesse. Nous la prévenons pour qu'elle remette les armes, pour qu'elle cesse.
Pour ce qui est de la manifestation de la population des Panzi Mulengeza, la soirée du dimanche 23 mars 2025, les maires appellent les habitants à contacter les services compétents. Lorsque survient une situation incomprise, au lieu d'organiser pareil événement en cette période d'insécurité. À propos de la présence des éléments de l'AFC M23 aux alentours de certaines universités de la place, dont UEA, les maires appellent la population au calme et rassurent que la situation est sous contrôle. Ces éléments ont été ainsi positionnés à la suite de la diffusion des messages dans les réseaux sociaux et faisant état d'une probable attaque de la ville, d'où cette stratégie de placer les éléments dans chaque coin pour assurer la sécurité.
Mais c'était quand il y avait des rumeurs d'une attaque qui viendrait de Nyantende. Et deux ou trois jours avant, cette attaque a eu lieu au niveau de Nyantende. Nous l'avons repoussée jusqu'à 4 km et au-delà. Mais l'objectif consistait à relier la petite forêt là pour venir y établir un maquis. Donc notre présence là-bas, c'est juste justifie par la raison ou par les soucis d'éviter que cette forêt ne devienne un maquis pour les semeurs de troubles, pour ceux-là qui sèment la terreur la nuit.
Ladis Muganza invite la population à l'apaisement et rassure que la présence de ces éléments n'aura aucun impact négatif sur les activités académiques.
Et deux présumés bandits ont été tués par la population et leurs corps brûlés sur avenue Sayo 3 au quartier d'Endéré en commune d'Ibanda la nuit du dimanche à lundi 24 mars. C'est ce qu'indique le chef du quartier Ndendere, le pasteur Albert Migabo, dans un entretien avec Radio Mandeleum. Selon lui, ces présumés voleurs font partie d'une équipe des bandits armés qui viennent du lac Kivu dans des pirogues pour insécuriser la population pendant la nuit. Une grande partie de l'avenue Sayo 3 est située en bas de la Guinée d'Ibanda et du terrain de football de Ndendere. Et le groupement de Karongo Nyangezi dans le territoire de Walungu continue de se vider de ses habitants. Ceci fait suite à plusieurs affrontements, ou disons aux affrontements récurrents entre des éléments Azalendo et les forces de l'AFC M23 dans cette partie du sud Kivu. Des sources sur place indiquent que c'est depuis près d'une semaine maintenant que des éléments qui se réclament aux Azalendo mènent des attaques répétées sur les positions de l'AFC M23 basées dans le groupement de Karongo et certains villages voisins. Explication, Mapé Dolinda.
Déjà depuis le vendredi 21 jusqu'au dimanche 23 mars, la situation est restée tendue dans l'entité. Des violents combats ont été rapportés dans les collines surplombant les centres de Mounia, provoquant la perturbation des activités et un déplacement massif de population. Alors qu'un calme était revenu dans la journée de dimanche, des sources contactées ont signalé un nouvel affrontement en plein centre de Mounia. Des éléments Azalendo ont été visibles au monument de Nyangezi, mais ont été repoussés par les éléments de l'AFC M23. Dans la matinée de lundi 24 mars 2025, expliquent des sources de l'administration du centre, des nouveaux tirs à armes lourdes et légères ont été attendus, accentuant la panique et provoquant de nouveaux déplacements des populations. Des témoins rapportent qu'une dizaine de corps des personnes tuées dans ces affrontements ont été visibles gisant au sol dans la matinée de lundi 24 mars 2025 dans certains villages et sur la route menant vers la paroisse de Chibimbi, toujours à Nyangezi. L'avant-midi comme l'après-midi de ce lundi, des dizaines de personnes ont été aperçues les unes à moto, les autres à pied avec leurs effets en direction des zones plus ou moins sécurisées, notamment vers Kamanyola et Bukavu. Toutes les activités sont restées paralysées et les mouvements de Bukavu à Nyangezi perturbés indiquent des habitants joints à ces sujets, tout en témoignant qu'aucune boutique ou restaurant n'a ouvert ses portes. Précisons que sur la partie nord de la province du site Kivu, précisément à Kabare, une psychose a également régné dans les hauteurs du centre commercial de Katana et Kabamba. Des villageois qui se rendaient au champ très tôt le matin, comme par exemple les vers Kabouchois, ont été enjoints de retourner chez eux par des éléments se présentant comme Azalendo. La rumeur a vite pris du chemin au point de provoquer une sorte de panique au sein de la population, explique notre source. Sur le même axe, cette fois-ci vers Chivanga, la situation sécuritaire est constante. Déstabilisé par des attaques répétées et de courte durée des éléments se réclamant à Azalendo contre les positions de l'AFC M23. Cette situation provoque une perturbation des activités, particulièrement des dizaines de motos et véhicules qui doivent se rendre notamment à Bunyakiri et Ombo pour ravitailler ces entités du territoire de Kalehe en produits manufacturés en provenance de Bukavu.
Et sur le plan africain, l'Angola jette l'éponge. Deux mois passés après la prise de la présidence en exercice de l'Union africaine, l'Angola considère qu'il est temps de se libérer de la responsabilité de médiateur dans le conflit à l'est de la RDC. Dans un communiqué rendu public ce lundi 24 mars, la présidence angolaise explique avoir tout fait pour résoudre les différends entre les deux États voisins à la base de l'instabilité dans l'est de la RDC, mais sans succès, et préfère se concentrer désormais sur son mandat à la tête de l'Union africaine. Cette dernière se chargera désormais de choisir un nouveau médiateur.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Nous changeons de chapitre à présent. Le bâtiment du sous-commissariat de la police nationale congolaise en commune d'Ibanda, situé en face du bâtiment administratif du gouvernorat des provinces, non loin de la maison communale d'Ibanda, a connu un incendie dans l'avant-midi du lundi 24 mars 2025. Des sources concordantes indiquent que la cause de l'incendie serait un court-circuit provoqué par des ordinateurs qui étaient toujours branchés depuis que les éléments de la police l'avaient abandonné à la chute de Bukavu entre les mains des troupes du l'âme 23. En termes de bilan provisoire, l'on rapporte une dizaine d'ordinateurs endommagés, le plafond et une grande partie du bâtiment. Le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention du véhicule d'un particulier qui a été appelé pour le secours. Vous l'avez suivi au sommaire de ce radio-journal, les mâles contenant les questionnaires de l'épreuve préliminaire de l'examen d'état édition 2025 pour les candidats autodidactes sont déjà dans la ville de Bukavu. Cette confirmation est du directeur provincial ad intérim de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Sud Kivu 1, Léon Moussa Guine, ce lundi au cours d'une interview accordée à Radio Mandeléo. Précision Omer Moudekereza.
Notre source précise que tout est fin prêt pour la passation de cette épreuve ce mardi 25 mars pour les candidats autodidactes de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Léon Moussagi précise que le go de ces examens sera donné par l'autorité provinciale au lycée Chirezi en commune d'Ibanda, tout en indiquant que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises par les autorités pour une meilleure passation de cette épreuve. Léon Moussagi invite les candidats à se présenter bien avant dans leur centre respectif choisi pour cette fin.
La précision, c'est que tout est déjà fin prêt parce que les items sont arrivés, les autorités en place sont saisies, les mâles sont déjà bien gardés par les autorités en charge de sécurité pour se rendre compte du niveau de préparation dans les centres qui sont organisés ici dans la ville de Bukavu. Le même dispositif sécuritaire est mis en place. Donc, je peux demander à tous les candidats d'être ponctuels dans le centre.
Le directeur provincial ad intérim de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Sud Kivu 1, Léo Moussagi Mukambiloa, invite les parents à envoyer les enfants à l'école, surtout ceux des classes terminales, car dans moins de 3 mois, les NAFEP et les TENASOSP seront organisés sur toute l'étendue de la République. Notre source appelle également les enseignants à tout mettre en œuvre pour terminer le programme et permettre ainsi aux élèves des 6e primaire, de 8e éducation des bases et ceux des 4e des humanités de mieux passer ces épreuves.
Et les victimes de l'incendie survenu sur avenue Elila B au quartier Tchimpou dans la commune de Kadutu il y a plus d'une semaine et demie restent sans aucune assistance. Le chef du quartier Tchimpounda qui nous livre l'information explique que ces sinistrés qui ont tout perdu dans ce drame ont besoin de l'assistance en cette période. Détail Alain Kabika.
Estimé à plus de 40 ménages, plusieurs d'entre eux vivent certains dans des maisons d'accueil, dans des églises et d'autres passent la nuit à la belle étoile exposée aux intempéries, déplore notre source. Les plus exposés par cette situation sont les femmes enceintes et les enfants, d'où l'appel aux humanitaires et aux personnes de bonne volonté à venir en aide ses compatriotes qui traversent une période difficile. Le chef du quartier Tchimpounda, Luc Ilungambidji.
On avait perdu beaucoup de biens de ménage, autant de maisons. C'était 40 maisons incendiées. Il y a eu 4 autres maisons qui ont été démolies pour limiter les dégâts. Voilà que depuis ces jours-là, la situation elle est restée très catastrophique. Jusqu'aujourd'hui. Et voilà, nous profitons pour faire un SOS à toutes les personnes de bonne volonté, à tous les gens de bonne volonté, de voir comment, dans quelle mesure on peut toujours intervenir, n'est-ce pas, pour ces familles qui, jusqu'aujourd'hui, restent encore sans abri. De ces 40 maisons et 4 démolies, il y a eu aussi 17 ménages des locataires qui vivaient toujours dans ces milieux. Tous, ils sont restés sans abri. Donc, aujourd'hui, ça devient une situation très catastrophique. Et surtout avec la présence de la pluie qui est aux gens de bonne volonté, qui a encore ces cas, qui reste en suspense, peut-être que vous pouvez encore y penser d'une manière ou d'une autre.
Pour rappel, plus de 40 maisons sont parties en fumée dans un incendie déclaré sur avenue Elila B au quartier Tchimpounda en commune de Kadutu en date du 15 mars 2025. Lors de cet incendie, une fillette d'une dizaine d'années avait perdu la vie.
Et plus d'un mois après l'occupation de la ville de Bukavu par l'AFC M23, les activités se déroulent normalement aux frontières. Les mouvements d'entrée et de sortie ont repris sous un rythme habituel à la frontière, mais seul le commerce transfrontalier connaît une perturbation suite à la faible demande des consommateurs. Explication Hélène Boudjiriri.
Selon un constat fait au poste frontalier Ruzizi Premier, par exemple, les Congolais en provenance de Bukavu s'alignent sur une file attendant des visas pour la traversée à la frontière avec le Rwanda. Les visas d'entrée ou de sortie concernent les voyageurs qui disposent des documents CPGL, des tenants-lieux, des passeports et des passeports. Francis Amini, un habitant de Bukavu retrouvé à la frontière Ruzizi Premier, explique la manière dont les opérations sont menées.
Je suis sorti à la maison à 8 heures pour la frontière. Je devrais faire quand même. Je suis sorti le matin. matin, je suis arrivé à la frontière. Comme d'habitude, je suis arrivé au bureau, il y avait des agents municipaux. On a mis le visa sur le CPG. Nous avons traversé vers le Rwanda, il fallait aussi être à la ligne en attendant le visa. Quand on a mis le visa sur le CPG, nous sommes traversés, nous sommes partis faire l'opération et maintenant là, je suis en train de rentrer.
Par ailleurs, les Congolais qui ne disposent pas des documents exigés pour la traversée peuvent s'en procurer directement à la frontière dans un guichet de la Direction Générale des Migrations des GEM. Sur place, les documents CPG les délivraient moyennant paiement de 10 dollars et 3 000 francs congolais et les tenant lieu des passeports à 45 dollars et 3 000 francs congolais. Au-delà de la traversée des personnes, des marchandises importées de l'étranger traversent également la frontière dans des camions. Dans les lots des vivres, l'on retrouve de la viande, des bœufs et des porcs, de la farine, des œufs et des légumes. Ce trafic est assuré par des petits commerçants transfrontaliers qui s'organisent en système de groupage, a constaté Radio Maïndi Léon. Ces derniers sont présents à la frontière, mais en petits groupes et l'engouement autour de leurs marchandises est faible. Une source à la frontière au Jésus Premier indique qu'autrefois, les petits commerçants importaient un camion frigorifié avec 15 quartiers de viande, de bœufs par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'ils importent 10 quartiers de viande de bœufs par jour, indique la même source. Par semaine, ajoute notre source, 4 camions de œufs traversaient la frontière, mais actuellement, c'est à peine que 2 camions sont importés en provenance du Rwanda. C'est le cas également pour la farine, qui habituellement prend la destination des territoires des Kalehe et des Mwenga, deux entités actuellement frappées par l'insécurité. Il s'est de préciser que les frontières sont ouvertes à Bukavu jusqu'à 18h.
Et par ailleurs, les activités socio-économiques traînent à reprendre dans un rythme normal à la frontière de Kamanyola depuis la prise de cette cité de la RDC, frontalière du Rwanda, par les troupes de l'AFC M23 en date du 18 février dernier. Des sources contactées le week-end par la rédaction de Radio Mandeleu indiquent que depuis les événements ayant conduit à la chute de cette cité, les activités qui faisaient vibrer l'entité n'ont pas repris leur cours habituel. La détail à la Kabika.
Jadis entité mouvementée par la présence des restaurants dans la zone frontalière avec de la viande grillée, le marché des fruits et légumes en plus d'une population constamment en mouvement, rien de tel n'est au rendez-vous depuis plus d'un mois maintenant. Sur place, aucun restaurant n'a ouvert ses portes, les petits commerçants sont carrément invisibles, alors que le petit marché est désormais désert. Les mouvements des motos et véhicules ont laissé la place au vent qui souffle à partir de la rivière Ouzizi. Le flux important d'importation des marchandises en provenance des pays étrangers n'est pas au rendez-vous. Ceci s'explique par le fait que les importateurs seraient encore en dehors du pays et d'autres continueraient toujours à craindre pour leur sécurité. Il faut néanmoins noter que le trafic entre Bukavu, Kamanyola via le Rwanda reste opérationnel pour les agences de transport et d'autres catégories de passagers, alors qu'il était possible de manquer une chambre d'hôtel au regard d'une forte sollicitation de la clientèle. Actuellement, les hôteliers de Kamanyola indiquent n'avoir eu aucun client depuis le début de ces événements. En clair, a indiqué l'un d'eux contacté par Radio Maïndéléo, aucun passager n'a le goût de passer la nuit à Kamanyola dans les contextes sécuritaires actuels. Malgré les retours progressifs des habitants qui avaient fui vers les Burundi, le secteur du tourisme reste donc sous le choc dans cette entité de plus de 100 000 habitants. À ceci s'ajoute le fait qu'il soit difficile pour le moment d'effectuer des mouvements aisés entre Kamanyola et Uvira. En effet, pour quitter Kamanyola et se rendre à Uvira actuellement, il faut passer par plusieurs chemins parfois loin de la route principale. Une fois à Katogota, explique des témoins, les passagers sont obligés de dévier vers Lubarika avant d'atteindre Luvungi et ainsi poursuivre les voyages, ce qui entraîne une forte répercussion sur les prix du transport, qui du reste n'est possible que par moto.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïndéléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La République démocratique du Congo affronte la Mauritanie ce mardi 25 mars dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards sont arrivés à Nouakchott en Mauritanie depuis le dimanche dernier. Les ambassadeurs congolais se retrouvent en Mauritanie avec l'objectif de s'imposer pour consolider une position préférentielle dans leur groupe. La RDC est motivée après sa victoire vendredi dernier devant le Soudan du Sud sous le score d'1-0 à Kinshasa. Cette victoire a permis à la RDC RDC de quitter de la troisième à la deuxième place au classement provisoire. En cas d'une autre victoire, la RDC occupera la première position. Pour l'instant, le Soudan occupe la première place avec 11 points et le Sénégal occupe la troisième place avec 9 points.
Radio Maïndéléo, la radio de développement. Place à l'invité du journal.
L'inactivité de la société Bralima provoque un manque à gagner de plus de 300 000 dollars américains par mois pour les finances de la province du Sud Kivu. Selon Idé Bakoulou, expert en finances publiques, la Bralima est la plus grande contributrice pour les trésors publics provincial. En plus, cette société verse des contributions considérables et paye des taxes, droits et impôts à plusieurs autres entités dont la Direction Générale des Impôts DGI, l'Office Congolais de Contrôle OCC, la Direction Générale des Douanes et Accises DGDA, la Régie des Eaux ainsi que la SNEL. Sur le plan économique, la province est frappée de plein fouet par cet arrêt, mais des solutions alternatives sont envisageables si l'administration publique est opérationnelle, fait savoir Idé Bakoulou qui répond à nos questions.
Monsieur Idé Bakoulou, Bagadjo, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
C'est depuis plus d'un mois que les portes de la société Bralima sont fermées. Quel est l'impact de l'inactivité de la société Bralima sur les finances de la province du Sud?
Les conséquences de la fermeture de la Bralima sont énormes, c'est même sur le niveau national. La Bralima, c'est la plus grande société du Sud Kivu. C'est-à-dire, les finances de la province sont alimentées pour une grande partie, en tout cas en tant que société contributrice, par la Bralima. Donc, sur le plan des finances, c'est catastrophique, évidemment. La Bralima paye à la province, en tant qu'entité, autour de entre 230 et 250 000 dollars par mois. Et ça, c'est seulement pour la consommation. Une taxe à la consommation. La Bralima paye beaucoup d'argent aussi en termes d'impôts sur les revenus locatifs, parce que la Bralima loue beaucoup de choses ici, mais aussi beaucoup d'impôts sur des impôts fonciers. Donc ça c'est au niveau de la province. Et du coup, vous voyez, c'est autour des 300 000 dollars de manque à gagner qui est entraîné par la fermeture de la Bralima. Au niveau national, la Bralima est vraiment une grande société contributrice pour toutes les entités étatiques qui sont ici. Si tu prends par exemple en termes d'accises, la Bralima paye autour de 5 milliards de francs congolais par mois. Et d'ailleurs, autour de 560 milliards, tu vois, c'est carrément 2 millions de dollars. Donc, ça aussi, c'est un manque à gagner. La Bralima paye à la SNEL beaucoup d'argent, autour de 500 millions de francs congolais. La Bralima paye à la Régie des Eaux autour de 370 millions de francs congolais. La Bralima paye à l'OCC autour de 95 millions de francs congolais. Et au niveau du transport, par les lacs, par les routes et consorts, la Bralima paye autour de 2 milliards de francs congolais par mois. Et quand on parle maintenant au niveau de la province, au niveau économique, si tu prends tout le personnel de la Bralima, tout ce que la Bralima paye comme sous-traitance, tout ce qui paye à l'INPP, à la CNCS, à l'ONEM, c'est beaucoup d'argent. La masse salariale de la Bralima, elle est énorme. Donc, la Bralima pèse lourd dans la province du Sud Kivu, et sa fermeture est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour notre province. Et cela sans parler maintenant sur le plan de ce que la Bralima paye à ses différents fournisseurs, notamment les fournisseurs locaux. Tous ces fournisseurs de riz, moi je connais trois coopératives agricoles qui vivent grâce à la Bralima.
Au-delà du trésor public national et de la province du Sud Kivu, quels sont les autres et des services d'assiette tels que vous les avez énumérés, ou disons les services qui interviennent dans la collecte des impôts et taxes dues à l'État? Quelles sont les autres entités les entités territoriales décentralisées qui attendent des parts de la Bralima?
Bon, à ce niveau-là, l'État quand même fait quelque chose de bien, parce que ce que la Bralima paye à la province, c'est carrément des impôts de droit commun. C'est-à-dire, la Bralima paye à la province, et la province va rétrocéder à toutes les autres entités décentralisées le 40% de ses taxes et impôts de droit commun. Donc, sur les 300 000 à peu près, c'est-à-dire tout inclus, taxes sur la consommation, les divers impôts, notamment l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier, les impôts sur les véhicules et consorts, sur tout ça, les entités ont quelque chose, mais c'est la province qui collecte.
C'est-à-dire donc, de quelque part, les finances de la ville de Bukavu et des communes telles que Kadoutou et Bagira seront affectées.
Mais bien sûr, elles seront terriblement affectées, non seulement en termes d'impôts directs, mais dans toutes ces communes-là, il y a beaucoup maintenant d'emplois indirects de l'abraliement. Tous les dépôts relais, tous les bars et consorts. Donc tout cela est impacté. Et les communes vont être sérieusement impactées par la fermeture de l'abraliement.
Monsieur Idé, comme analyste sur les questions des finances et d'économie, qu'est-ce qu'il faut en réalité pour que la société Bralima reprenne service?
Nous devons faire très attention. Dans la région ici, nous avons trois grandes sociétés de Henneken. Il y a la Bralima Bukavu, il y a la Braliwa au niveau de Gisenyi, et il y a la Brarundi au niveau du Burundi. Au niveau des charges, Henneken pourrait bien se passer des charges de production, tous ces 10 milliards ici pour produire la Primus et toutes les autres bières ici, parce que toutes ces bières de la Bralima sont aussi produites chez les entreprises sœurs. Henneken, comme une entreprise qui cherche le profit, peut bien se passer de toutes ces charges, encourager les entreprises sœurs à produire, et puis nous importons. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, nous devons faire en sorte que nous négocions vraiment avec tout le monde qui peut négocier pour que l'entreprise Bralima commence. Mais il faut savoir que une des raisons majeures pour laquelle la Bralima aurait du mal à commencer, c'est la fermeture des banques. La Bralima, c'est une société très liquide. Très liquide, ça veut dire qu'il y a beaucoup de l'argent en cash. Et cet argent, la Bralima n'a pas de coffre chez elle. La Bralima doit déposer cet argent dans nos banques. Donc, les autorités devraient multiplier des efforts pour qu'il y ait ouverture des banques.
Et devant une telle situation qui s'avère complexe pour l'autorité provinciale en place, quels peuvent être les mécanismes alternatifs pour mobiliser les ressources en vue de couvrir les charges publiques, considérant qu'il y a un manque à gagner important de plus de 300 000 dollars qu'il faut combler chaque mois?
La première chose, il faut que l'administration locale, notamment l'administration provinciale, il faut qu'elle soit remise en fonction. Tous ces services de l'État qui collectent les impôts et taxes, qui encadrent aussi la vie publique, doivent reprendre. La deuxième chose, c'est le moment maintenant, effectivement, pour l'autorité qui est en place, d'appliquer carrément le 40% de rétrocession pour la province, je veux dire. Et cela, aujourd'hui, on ne peut compter que beaucoup plus hein, sur les revenus issus de la douane, notamment les importations. Et là, il faut qu'on ouvre l'œil et le bon. Il faut vraiment que le contrôle à la douane soit très sérieux pour que, effectivement, la province fasse entrer de l'argent. Au niveau de la province, il y a beaucoup de charges à supporter. Et il faut que l'autorité provinciale ait de l'argent pour supporter ces charges-là.
Monsieur Idé Bakoul, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Par ici prend fin ce Radio Journal. Anissé Akonko a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des beaux moments en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.